tuerais tout le monde et je m'en irais dehors, vos vies sans intérêt. Alors, je tuerais tout le monde et je m'en irais, et alors, mon cœur s'essoufflerait. Kaiser s'est fait saucer. Quelques cousins baveurs aura tout fait foirer. À l'abri du soleil, j'attends sans illusion que ces messieurs débarquent et me traînent au donjon. Tant pis, je tuerai tout le monde et je m'en irai dehors, leur vie sans
sur le DAB+. Principe actif, le mix des cultures.
There is a crowd in here that fooled themselves. They brought their friends and they made their hell. They faked their grin in a lonely cell. Took a bit off and the water. I know there are a few in here that hurt themselves. They kick and bend and I dried up well. They call for help and you know them well. Are you aware of what do I know? I will not surrender. No, I will not surrender. No, I will
causing all this trouble.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 6h du matin à Paris, 1h de plus à Beyrouth. Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
À la une de votre journal international, le Liban, avec ses nouvelles frappes israéliennes hier dans le sud.
Et malgré les promesses d'apaisement de Washington, les diasporas libanaises et israéliennes de France appellent au cessez-le-feu dans une pétition. Les téléphones Apple, les systèmes informatiques Microsoft, les boîtes mail Google. Le continent européen est très dépendant aux géants numériques américains. Pour en sortir de cette dépendance, la Commission européenne dévoile aujourd'hui un plan pour sa souveraineté technologique. La Russie organise à partir d'aujourd'hui son forum économique. Si les dirigeants occidentaux n'y participent pas, des élus d'extrême droite allemands ont fait le déplacement et ça fait grincer des dents à Berlin. Dans ce journal également, la visite du nouveau président béninois au Niger et au Burkina. Et puis corruption et grève à répétition, la gestion désastreuse du Machu Picchu s'invite dans la campagne présidentielle au Pérou. Le sud du Liban, à nouveau frappé par Israël. Au moins 5 morts hier, dont un enfant, 48 blessés, selon le ministère de la Santé libanais. Ces frappes interviennent alors que les États-Unis avaient promis un apaisement dans la région et suite à des pourparlers entre des délégations israéliennes et libanaises à Washington. Le Hezbollah est le seul obstacle à la paix, selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio. La guerre, jusqu'ici, a fait près de 3500 morts dans le pays, plus de 10 000 blessés. À l'étranger, les diasporas tentent de donner de la voix pour réclamer un cessez-le-feu. En France, une pétition en ce sens a été lancée par des franco-libanais et des franco-israéliens. Elle a recueilli plus de 110 000 signatures, Marius Roland.
Ne laissons pas Israël faire du Liban un nouveau Gaza. Dans une tribune publiée dans le journal La Croix en mars, des dizaines de franco-israéliens et franco-libanais exhortent le président Emmanuel Macron à intervenir pour faire respecter le cessez-le-feu. Marie Yared est directrice de l'ONG Havas, à l'origine de la pétition et de la tribune.
Ce cessez-le-feu n'en a que le nom. Bien avant mars 2026 et la reprise des hostilités, ce cessez-le-feu avait été violé plus de 15 000 fois par Israël, qui a envahi le sud du pays, a rasé des villages millénaires, a bombardé des hôpitaux, des infrastructures scolaires, des églises, des mosquées.
Parmi les signataires, Yael Lerer, figure politique franco-israélienne. Selon elle, les pourparlers en cours à Washington n'aboutiront à rien. L'application du cessez-le-feu n'est possible que par la contrainte d'Israël.
C'est clair qu'on aura un cessez-le-feu. La question, c'est quand ? Parce que les changements, malheureusement, ne vont pas venir de l'intérieur. On a besoin d'une pression internationale réelle pour avoir un changement. Sans sanctionner Israël, sans faire des mesures économiques, rien ne va bouger. Et pour le moment, on ne fait rien.
L'issue du conflit semble toujours lointaine. Ce mardi, le Hezbollah a refusé tout accord partiel avec l'ennemi, alors que débutait un nouveau cycle de négociations entre le Liban et Israël à Washington.
Les États-Unis qui disent avoir repoussé plusieurs attaques iraniennes dans la région du Golfe. L'armée américaine dit avoir intercepté des missiles visant Bahreïn, abattu des drones qui se dirigeaient vers des navires civils. D'autres drones iraniens qui visaient le Koweït sont retombés avant d'atteindre leur cible. L'armée américaine dit aussi avoir frappé une île iranienne, Keshm, située dans le détroit d'Ormuz. Et dans cette guerre, on l'a vu, le Liban perd un lourd tribut. RFI vous propose une journée spéciale aujourd'hui avec, dès ce matin, une édition spéciale en direct de Beyrouth. C'est à partir de 6h10, temps universel 9h10, heure de Beyrouth. Et sur internet, vous pouvez d'ores et déjà lire notre article sur la manière dont cette guerre fait vaciller le système politique libanais. Rendez-vous sur www.rfi.fr. L'Europe trop dépendante aux technologies américaines. Microsoft, Apple, Google, difficile de se passer de ces géants du numérique aujourd'hui pour le continent européen. Et pour y remédier à cette dépendance, la Commission européenne va dévoiler aujourd'hui un plan pour sa souveraineté, pour réduire donc cette dépendance avec des alternatives européennes. Et ce, Théo Renaudon, alors que les relations entre Bruxelles et Washington sont tendues depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump.
En cas de crise majeure avec les États-Unis,
ce serait vraiment un scénario apocalyptique.
Washington pourrait bloquer les paiements par carte bancaire, mode de règlement très courant en Europe. Le consultant en stratégie numérique Jean de Chambure. conclure.
Ils peuvent couper les paiements avec Visa et Mastercard. Ils seraient techniquement capables de le faire.
Autre talon d'Achille européen, les réseaux sociaux, aujourd'hui pierre angulaire du commerce.
Si par exemple Facebook, Instagram, WhatsApp sont coupés immédiatement sur le territoire européen parce que cela déplaît aux États-Unis, là aussi, c'est une sanction énorme.
Alors pour renforcer son indépendance, le consultant appelle l'Europe à se tourner vers l'Afrique.
Il faudrait aussi qu'on fasse preuve un peu d'inventivité, puisqu'un certain nombre de pays d'Afrique créent une partie essentielle de la matière première nécessaire à la composition tant des ordinateurs portables que des téléphones portables. Pourquoi ne pas faire des partenariats avec ces pays pour pouvoir créer des appareils numériques nouveaux?
Mais pour l'Europe, se défaire de l'influence américaine prendra du temps, regrette Jean de Chambure, qui dénonce la passivité de ses dirigeants jusqu'ici.
Les dirigeants européens qui suivront de loin le forum économique de Saint-Pétersbourg. Pour ce sommet organisé par la Russie, les représentants de 130 pays font le déplacement. Aucun responsable politique occidental ne sera donc présent en raison de la guerre en Ukraine. Mais des élus du parti d'extrême droite allemand AfD sont sur place, ainsi que des entreprises allemandes. Et ça ne manque pas de faire réagir à Berlin, Pascal Thibault.
Ça n'est pas de la diplomatie pour promouvoir la paix, c'est une prosternation devant un criminel de guerre. Le président de la commission de contrôle des services secrets au Parlement allemand, le chrétien-démocrate Mark Heinrichmann, n'a pas été tendre pour ses collègues de l'AfD qui assistent au forum économique de Saint-Pétersbourg. Des responsables sociodémocrates et écologistes dénoncent à l'unisson une visite qui ferait le jeu de Vladimir Poutine. Le monsieur affaires étrangères de l'AfD au Bundestag estime, lui, qu'il a fait le déplacement pour défendre les intérêts économiques de son pays. Il a souligné que la délégation du parti d'extrême droite allemand n'avait pas eu une telle envergure depuis longtemps. Ces voyages de l'AfD en Russie avant et après l'invasion de l'Ukraine ne sont pas nouveaux. Le parti a été souvent critiqué pour ses liens très proches avec le pouvoir russe. D'autres Allemands seront présents à Saint-Pétersbourg. Des représentants des milieux d'affaires ont à nouveau fait le déplacement. 1600 entreprises germaniques sont actives en Russie, où elles ont réalisé 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Ce marché reste intéressant pour elles malgré les sanctions adoptées contre Moscou. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et dans le même temps, la Russie poursuit ses frappes sur l'Ukraine. Au moins 23 morts dans les frappes d'hier, 16 dans la cité industrielle de Dnipro, dans le centre-est, 7 dans la capitale, Kiev. Kiev où le président Volodymyr Zelensky craignait une nouvelle frappe massive cette nuit. Malgré ces frappes quotidiennes sur le front, la Russie ne progresse plus. En mai, l'Ukraine a repris 282 km² de territoire, selon l'analyse AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre. L'armée russe continue d'occuper environ 20% de l'Ukraine. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, revoit à la baisse son estimation des cas suspects d'Ebola en RDC et en Ouganda. Il passe de 906 à 116 pour 330 cas confirmés, dont 321 en RDC. De nombreux malades ont été écartés après vérification. Cette épidémie d'Ebola était au cœur d'une réunion virtuelle des ministres de la santé de l'EAC, la communauté d'Afrique de l'Est. Les représentants des 8 pays membres ont appelé à renforcer le partage d'informations et à multiplier les déploiements de laboratoires mobiles. Le Bénin fait un pas de plus dans le réchauffement de ses relations avec ses voisins de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Une dizaine de jours après son investiture, le nouveau président a poursuivi hier sa tournée régionale. Il était à Niamey et à Ouagadougou. Romuald Ouadani renoue le dialogue avec le Niger et le Burkina Faso après une longue période de tension. Il était même attendu hier à l'aéroport de Niamey par le général Abdourahmane Tiani. Les questions sécuritaires et de la réouverture de la frontière ont été abordées, Magali Lagrange.
Romuald Ouadani a été reçu à Niamey avec tous les honneurs. Accueil chaleureux et fraternel, ambiance de grande cordialité selon les termes du communiqué final conjoint et volonté commune de consolider la coopération entre les deux pays voisins. Les dirigeants du Bénin et du Niger s'engagent à œuvrer à la levée de tous les obstacles au renforcement de la coopération, notamment la réouverture de la frontière, peut-on lire. Frontière fermée dans la foulée du coup d'État de 2023 que Niamey n'a pas rouvert à ce jour. Un comité d'experts chargé de recenser et de lever les obstacles doit rendre un rapport dans les 15 jours. Autre sujet d'importance, la sécurité. Alors que le Sahel et le nord des pays côtiers font face aux groupes djihadistes, Romuald Ouadani était d'ailleurs accompagné de son conseiller spécial à la sécurité et à la défense, du patron de la Direction générale des services et de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Le président béninois et le général Abdourahmane Tchiani promettent d'unir leurs forces pour lutter contre le fléau du terrorisme et du banditisme. Le chef du CNSP nigérien a accepté une invitation à se rendre prochainement à Cotonou.
Et donc après cette visite à Niamey, le président béninois s'est rendu dans la capitale burkinabé Ouagadougou, où il a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré. Dans un communiqué, tous deux ont dit vouloir d'un partenariat renouvelé. En Colombie, la campagne pour le second tour se poursuit. Le scrutin présidentiel du 21 juin opposera le candidat de la gauche, Ivan Cepeda, dauphin du président sortant Gustavo Petro, au candidat de l'extrême droite, Abelardo de la Espriella. Et ce dernier vient d'obtenir le soutien du président américain, soutien total et complet, dit Donald Trump sur son réseau Truth Social, et qui décrit un dirigeant intelligent, fort et dur, qui va stopper l'immigration illégale et restaurer l'ordre, toujours selon les mots de Donald Trump. Une autre campagne présidentielle se poursuit, cette fois au Pérou. Les électeurs devront départager dimanche Keiko Fujimori, candidat de la droite autoritaire, à celui de la gauche rurale, Roberto Sanchez. Et dans ces derniers jours de campagne, un monument historique s'invite dans les débats. C'est le Machu Picchu. La gestion du site archéologique le plus prisé du pays est de plus en plus contestée et elle concentre beaucoup d'attention, Martin Chabal.
Le Machu Picchu pourrait perdre son statut de nouvelle merveille du monde et s'installer comme un sujet dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle au Pérou. L'organisation New Seven Wonders, qui décerne le titre honorifique de merveille du monde, a adressé une lettre publique destinée à Keiko Fujimori et Roberto Sanchez. En cause, le chaos qui entoure le site depuis quelques mois. Corruption sur la vente de billets, grève à répétition et en décembre dernier, une collision de train qui a fait un mort. L'organisation exige alors des engagements concrets de celui ou celle qui entrera au palais présidentiel après le scrutin du 7 juin pour permettre aux touristes de visiter le site sans souci. Mais pour l'instant, Fujimori comme Sanchez n'ont pas dit un mot. Un silence d'autant plus remarqué pour Sanchez, qui a été ministre du tourisme entre 2021 et 2022. Les menaces de retirer le statut de merveille du monde au Machu Picchu ne sont finalement pas contraignantes. En réalité, c'est l'UNESCO et l'État péruvien qui financent le site archéologique, mais c'est un sujet pris très à cœur par les Péruviens. Chaque année, près d'1,5 million de touristes visitent les ruines incas du Machu Picchu, et si l'image du site archéologique se dégrade à l'international, ça pourrait rapidement devenir le premier grand dossier ou le premier boulet du prochain président qui sera élu dimanche. Martin Chabal, Lima, RFI.
En tennis, la fin aujourd'hui des quarts de finale du tournoi de Roland-Garros, l'un des quatre tournois majeurs de l'année. Chez les hommes, le Canadien Félix Auger-Aliassime et l'Italien Flavio Cobolli se disputeront une place en demi. Un Italien au moins sera présent dans le dernier carré puisqu'un autre duel opposera deux compatriotes, Matteo Berrettini et Matteo Arnaldi. Chez les femmes, la Polonaise issue des qualifications Maya Jawlińska sera contre la Russe Anna Kalinskaya. Une autre Russe, Diana Schneider, affrontera elle la numéro 1 mondiale, la Biélorusse Arina Sabalenka. Lui s'apprête à découvrir son étoile. L'ex-footballeur britannique David Beckham va bientôt avoir son étoile à Hollywood. La cérémonie est prévue le 12 juin à l'occasion de l'entrée en lice à Los Angeles de la sélection américaine à la Coupe du Monde. Et c'est la première fois que le Walk of Fame de Hollywood Boulevard est dédié une de ses étoiles à un footballeur. RFI, 6h13 à Paris.
RFI, toute l'actualité.
Marion Casanov.
On reste ensemble pour une vingtaine de minutes. On sera au Liban dans notre reportage international. Le sud du pays à nouveau frappé par Israël. Une guerre qui a aussi, on en parle moins, un fort impact sur la santé mentale des Libanais, soumis à un stress, une angoisse permanente. Le Liban face au chaos depuis des décennies, un sujet abordé dans le premier livre de la dramaturge Ala Mouranier. Elle est notre invitée culture aujourd'hui. On ira ensuite en Italie, où un quadruple meurtre de travailleurs migrants met en lumière la détresse de ses employés précaires. Dans le Conseil Santé, retour sur la souche Bundibugyo au cœur de l'actuelle épidémie d'Ebola. Tout cela avant un nouveau journal d'actualité africaine sur RFI. Vu dans le journal, Israël poursuit ses frappes sur le sud du Liban et malgré les promesses d'apaisement de Washington dans cette guerre, face à toutes les urgences, la santé mentale passe souvent au second plan. Pourtant, cette santé est mise à rude épreuve avec les traumatismes liés au bombardement, aux déplacements forcés, au deuil à répétition. De quoi ébranler durablement l'équilibre psychologique des Libanais. Sur place, le reportage de notre correspondante Sophie Guignon.
Nous sommes dans le quartier de Hamra. Dans de nombreux immeubles désaffectés, on peut apercevoir des déplacés qui n'ont pas trouvé de meilleur refuge. À quelques pas, la pharmacie du docteur Omar Richani.
Tu veux que je te dise franchement, on vend beaucoup de pilules contre l'anxiété et la dépression. On vend plus de médicaments contre la dépression que de paracétamol contre les maux de tête.
Un mal-être général causé par l'accumulation de crises que traverse le Liban pour le pharmacien.
La situation dans laquelle on vit est très mauvaise. Les banques ont volé de l'argent. À cause des guerres, personne n'a de travail. Tout est très angoissant et ça pèse sur les gens. Heureusement que les médicaments existent pour que l'on puisse dormir, qu'on puisse se détendre un peu. Sans cela, ce serait encore plus dur.
Momento, ho le scarpe.